Bon, plantons un décor que beaucoup d'adultes connaissent particulièrement bien.
Oh que oui.
Imaginons la scène. C'est une journée de travail tout à fait classique, peut-être même un peu chargée.
Très chargée en général.
Exactement. Les dossiers s'accumulent, la concentration est à son maximum, et soudain, le téléphone vibre sur le coin du bureau.
Le fameux.
Voilà, un simple coup d'œil à l'écran suffit pour que le rythme cardiaque s'accélère brusquement. C'est le nom de l'école ou de la crèche qui s'affiche.
Et là, c'est la panique immédiate.
Immédiatement, oui. Dans cette fraction de seconde, c'est une multitude de scénarios qui défilent dans la tête. Est-ce une simple information administrative?
Ce qui est rarement le cas, soyons honnêtes.
Bah oui. Ou est-ce le redouté appel pour un petit bobo, une vilaine chute dans la cour de récréation, voire un nez cassé? On décroche, l'appréhension au ventre. Et là, au bout du fil, la voix de l'enseignant résonne, douce, mais avec cette inévitable petite pointe de gêne.
Et la petite hésitation caractéristique.
C'est ça, du genre « Bonjour, je vous appelle concernant l'enfant, il y a eu un petit accident de pipi.
C'est un grand classique, vraiment un grand classique du quotidien parental ou éducatif. Et ce qui frappe le plus, c'est le décalage.
» Le décalage.
Oui, le décalage entre la banalité absolue de l'incident, parce que c'est banal, et l'intensité de la réaction qu'il provoque. Ce coup de téléphone, bien qu'il soit totalement anodin d'un point de vue médical, ça cristallise une quantité phénoménale de stress pour quiconque a la responsabilité d'un jeune enfant.
C'est clair.
Le tourbillon d'émotions se déclenche instantanément. L'inquiétude pour le bien-être de l'enfant se mêle presque aussitôt à, disons, une certaine gêne sociale face à l'institution scolaire.
Oui, on se sent jugé en fait.
Absolument. Et très vite, c'est le casse-tête logistique pur et dur qui écrase tout le reste.
C'est une réaction en chaîne inévitable. La tête se remplit de questions pratiques. Comment quitter le travail en plein milieu de la journée?
Qui va pouvoir se libérer en urgence dans l'entourage?
Voilà. Est-ce que l'enfant est en train de pleurer tout seul, isolé, dans un coin? C'est une situation qui met les nerfs à vif de n'importe quel adulte, même le plus organisé.
Tout à fait.
Et c'est précisément pour cette raison que notre exploration d'aujourd'hui s'avère si pertinente pour notre audience. Nous nous penchons sur un article extrêmement fouillé.
Une très bonne ressource.
Oui, issu du blog Oui Femmes. C'est daté de février 2026 et ça s'intitule de manière très pragmatique « Accident pipi à l'école, 7 conseils indispensables ».
Un titre qui annonce la couleur.
Exactement. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de prendre ce moment qui génère une angoisse folle, de le dédramatiser totalement, de comprendre ce que l'enfant communique réellement à travers cet événement.
C'est le point clé, la communication.
Absolument. Et enfin, de voir comment transformer ce fardeau logistique en une véritable opportunité pour renforcer le lien de confiance.
Vaste programme.
Bon, décortiquant tout ça, commençons par le commencement. La première réaction face à un vêtement mouillé, c'est souvent un soupir d'agacement.
Oui, et une idée reçue tenace qui remonte à la surface.
L'idée que l'enfant a été paresseux, qu'il n'a tout simplement pas voulu interrompre son jeu.
Le fameux mythe de la défiance. La source attaque ce préjugé de front d'ailleurs.
C'est important de le souligner.
Très important. Blâmer l'enfant ou interpréter cet accident comme une provocation, c'est non seulement inutile, mais c'est une erreur d'analyse fondamentale. Les causes de ces oublis ne relèvent, pour ainsi dire, jamais du caprice.
Jamais.
Le document nous invite d'abord à observer la réalité purement physiologique, l'anatomie d'un enfant en bas âge à ses propres limites, des limites que le monde adulte a parfois tendance à occulter, un peu par commodité, il faut l'avouer.
Le texte rappelle une évidence qu'il est bon d'entendre. La vessie d'un enfant est tout simplement beaucoup plus petite.
C'est de la mécanique de base.
Voilà. Elle ne peut physiquement pas retenir des fluides sur des périodes prolongées qui, elles, correspondent à nos rythmes d'adulte. Elle est encore, pour reprendre l'expression exacte de l'article, en plein apprentissage de son métier.
J'aime beaucoup cette expression.
Moi aussi. Mais au-delà de la simple mécanique, la source aborde une autre cause physiologique très parlante. La concentration intense.
Ah, la fameuse bulle de concentration.
C'est ça. Un enfant peut être tellement absorbé par un jeu passionnant, par une construction en bloc ou par une histoire racontée en classe, que son cerveau occulte complètement les signaux d'alerte envoyés par son propre corps.
C'est très juste. Et l'analogie est facile à trouver dans notre propre quotidien d'adulte.
Bien sûr. Comme un adulte confortablement installé dans une salle de cinéma, totalement captivé par un thriller haletant, il ressent une légère soif ou même le besoin de se lever, mais l'action à l'écran est tellement intense qu'il repousse l'échéance.
Il se dit « j'irai à la prochaine scène calme ».
Exactement. Le monde extérieur, et même ses besoins internes urgents, disparaissent temporairement face à la focalisation de l'attention.
Et chez un enfant, dont le système nerveux est en plein développement, ce phénomène d'absorption est littéralement décuplé. Le signal d'alarme n'arrive au cerveau conscient que lorsqu'il est, matériellement parlant, trop tard.
C'est une perspective qui aide vraiment à développer de l'indulgence, je trouve.
Complètement.
Mais le texte va plus loin que la simple biologie ou la distraction. Il y a tout un pan émotionnel à prendre en compte.
Et ce qui est fascinant ici, c'est précisément cette dimension psychologique qui se cache derrière un problème apparemment physique.
C'est la partie immergée de l'iceberg.
Voilà. L'accident de propreté fonctionne très souvent comme un véritable baromètre de l'état émotionnel. Ce n'est pas qu'une question de vessie pleine. C'est le symptôme tangible d'un bouleversement intérieur.
Le document liste d'ailleurs des causes émotionnelles très spécifiques.
Oui. Le stress et l'anxiété arrivent en première ligne. Les enfants sont de véritables éponges émotionnelles.
C'est bien connu.
Un changement majeur, comme un déménagement, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, des tensions familiales ou même une simple difficulté d'intégration avec des camarades à l'école. Tout ça peut perturber leur contrôle physiologique de manière significative.
Et le manque de sommeil joue aussi un rôle énorme, n'est-ce pas? La fatigue est mentionnée comme un déclencheur majeur dans l'article.
C'est un facteur absolument déterminant. Un enfant épuisé a mécaniquement beaucoup moins de contrôle sur ses sphincters. Le texte souligne un moment charnière d'ailleurs.
Lequel?
L'entrée en maternelle et la disparition progressive de la sieste de l'après-midi. Ce changement de rythme crée un état de fatigue extrême en fin de journée. C'est un terrain extrêmement propice au petit relâchement.
C'est logique.
Et à l'autre extrémité du spectre émotionnel, on trouve l'excitation excessive. Une journée exceptionnelle, comme une sortie scolaire à la ferme ou un goûter d'anniversaire un peu trop bruyant, ça génère une telle effervescence que les besoins fondamentaux sont tout simplement relégués au second plan.
Il y a d'ailleurs une phrase dans l'article qui résume magistralement cette dynamique. Je cite textuellement la source.
Allez-y.
Un accident de propreté n'est pas un acte de défiance. C'est un signal que l'enfant nous envoie, souvent inconsciemment, sur son état physique ou émotionnel. Fin de citation.
C'est puissant.
C'est un changement de paradigme complet. Au lieu de chercher un coupable, au lieu de se demander qui a fait une erreur de timing, l'adulte est invité à enfiler un costume d'enquêteur bienveillant.
J'aime beaucoup l'image de l'enquêteur.
N'est-ce pas? L'objectif, ça devient de décoder un besoin caché en observant la fréquence ou le contexte de l'incident.
Et ce changement de posture, c'est vraiment la condition sine qua non pour gérer la situation correctement. Comprendre l'origine du problème, ça prépare l'adulte à la réaction immédiate. Parce que la façon dont on gère les toutes premières minutes après la découverte de l'accident va donner le ton de toute la relation éducative autour de ce sujet.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui?
La théorie, c'est super. Mais quand le téléphone sonne en pleine réunion, on a besoin de concret.
D'urgence même.
Voilà. Et l'article de WIFAM bascule alors dans l'ultra-pratique, avec des conseils pour éviter que la situation ne tourne au psychodrame.
Les fameux 7 conseils.
Tout commence dès la fameuse réception de l'appel. La recommandation première intitype, gérer l'immédiat en restant d'un calme olympien.
Plus facile à dire qu'à faire.
C'est clair. Même si intérieurement, on jongle frénétiquement avec son emploi du temps, il faut respirer. L'auteur suggère une approche très diplomate au téléphone. Remercier l'enseignant pour l'appel et poser d'emblée une question purement pratique.
Du style,
est-ce qu'un sac de rechange dans son casier suffit?
Et cette approche pragmatique a un double effet fantastique.
Lequel?
D'abord, elle rassure l'équipe éducative en montrant que la famille maîtrise la situation. Mais surtout, elle force l'adulte lui-même à redescendre en pression. Et une fois sur place, ou lors des retrouvailles le soir, la priorité absolue est de rassurer l'enfant.
Pas de leçon de morale, donc?
Surtout pas. Les phrases accusatrices, les soupirs d'exaspération, le fameux « mais enfin t'es grand maintenant », tout ça, c'est à proscrire totalement.
Le document recommande plutôt des formules apaisantes et déculpabilisantes, n'est-ce pas?
Exactement. Des choses simples comme « ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que tu ailles bien. »
On touche là à un point fondamental, la validation des émotions. Je me mets une seconde à la place de l'enfant, au milieu de la cour de récréation, avec un pantalon mouillé devant les copains. La honte doit être écrasante.
La honte est très souvent la peur terrible de la réaction de l'adulte à venir. C'est pourquoi mettre des mots sur cette gêne montre à l'enfant qu'il est compris et soutenu.
C'est rassurant.
Mais l'approche de la source va plus loin. Elle fixe une règle d'or, sur laquelle le texte insiste lourdement.
L'évitement total de la punition.
Précisément. La sanction est le pire ennemi de l'apprentissage de la propreté. Le mécanisme décrit par notre source est implacable. C'est un véritable cercle vicieux.
Comment ça fonctionne concrètement?
C'est simple. Punir ou humilier un enfant pour un accident augmente drastiquement son niveau d'anxiété globale. Et quel est l'un des symptômes physiologiques majeurs de l'anxiété chez l'enfant? Le relâchement des sphincters.
Ah oui, Donc on nourrit le problème.
Exactement. On crée les conditions physiques parfaites pour que le problème se reproduise le lendemain.
C'est fascinant de voir comment une réaction qui est perçue comme éducative par certains adultes est en réalité le moteur même de la récidive.
C'est contre-productif au possible.
Pour briser ce cycle, l'article propose une méthode brillante. Impliquer l'enfant dans la réparation, mais sans aucune notion de châtiment. Il s'agit de le responsabiliser en douceur.
Par exemple ?
Par exemple, une fois de retour à la maison, on peut lui proposer de transporter lui-même ses vêtements mouillés jusqu'à la machine à laver, ou de l'aider à lancer le cycle de lavage.
L'intelligence de cette approche réside dans le message sous-jacent. L'action est banale en soi, mais elle démontre par l'exemple qu'il s'agit d'un problème strictement logistique.
C'est ça, on dédramatise.
C'est un petit aléa du quotidien qu'il faut régler techniquement. Ce n'est en aucun cas une catastrophe morale ou une faute impardonnable qui entacherait la valeur de l'enfant. On sépare l'acte de l'identité.
Une fois la machine lancée et la pression retombée, le travail n'est pas tout à fait terminé. Le texte aborde ensuite la préparation de l'avenir avec les étapes 6 et 7.
La phase d'analyse en quelque sorte.
Voilà. Et là encore, la subtilité est de mise. L'idée, ce n'est pas de convoquer l'enfant à table pour un interrogatoire en règle sous la lumière d'une lampe sur les raisons de son oubli.
Évidemment.
L'article suggère d'utiliser un moment propice à la détente, comme l'histoire du soir, par exemple, pour investiguer discrètement.
Le moment où les défenses baissent.
C'est ça. Utiliser des questions ouvertes sur le déroulé de la journée permet souvent de délier les langues bien plus efficacement qu'une confrontation directe. On découvre alors peut-être qu'il y a eu un conflit à la cantine ou une peur panique des grandes toilettes au fond du couloir obscur.
Et puis, élaborer une stratégie pour la suite. Comme lui dire « le jeu sera toujours là quand tu reviendras des toilettes ».
Tout à fait.
Et si l'on relie cela à une perspective plus large, toutes ces petites actions mises bout à bout servent un objectif fondamental de la parentalité ou de l'éducation.
Lequel ?
La construction d'une confiance inconditionnelle. L'enfant observe avec une grande attention les réactions de ses figures d'attachement face à ses propres échecs.
C'est là qu'il jauge sa sécurité.
Exactement. Gérer ses petits tracas logistiques avec bienveillance lui prouve que le soutien de l'adulte est indéfectible. L'adulte n'est pas seulement là pour célébrer les réussites spectaculaires ou les bonnes notes. Il est un pilier solide, même lorsque la situation est franchement gênante ou inconfortable.
C'est tellement vrai.
C'est cette sécurité affective qui lui permettra, à terme, de grandir sereinement.
Cette sécurité affective se construit à la maison, certes, mais l'article nous rappelle une réalité évidente. L'enfant passe la majeure partie de sa journée à l'école.
Donc l'école doit faire partie de l'équation.
Inévitablement. C'est un aspect crucial de notre document. L'art de former une véritable équipe logistique et éducative avec l'institution scolaire.
Et pourtant, souvent la relation avec l'école peut s'avérer intimidante pour de nombreux parents.
Oui. L'établissement peut être perçu, à tort d'ailleurs, comme une entité qui juge les compétences parentales.
La courbe cassation des parents.
C'est un peu ça. La source balaye cette idée et propose au contraire de voir l'école comme un partenaire stratégique.
Et pour initier ce partenariat, l'article partage une astuce de communication redoutablement efficace. La demande de rendez-vous très court, 5 minutes, tout au plus.
Pas la grande réunion de fin trimestre.
Non, juste un échange ciblé. L'objectif est de s'asseoir avec l'enseignant, ou bien avec la TSEM.
Précisons d'ailleurs ce terme pour clarifier le contexte pour tous ceux qui nous écoutent.
Oui, bien sûr.
En France, la TSEM, c'est l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Ce sont ces professionnels qui sont sur le terrain toute la journée, aux côtés des enseignants pour la gestion pratique et affective des petits.
Et pour ceux qui nous écoutent depuis la Suisse, par exemple, on parlera plutôt d'éducateur ou d'éducatrice.
Exactement. Et ce qui est vital dans ce conseil du rendez-vous, c'est le timing.
Crucial, le timing.
Ce bref échange doit impérativement se faire en dehors des heures de pointe. On l'a tous vu, ou vécu. Tenter de discuter d'un sujet super sensible sur le pas de la classe, pendant que 20 enfants courent dans tous les sens et que d'autres parents attendent leur tour avec impatience.
C'est la pire idée possible.
C'est la recette garantie pour un échange stressant, défensif et au final improductif. 5 minutes posées, dans le calme d'une classe vide, ça change toute la donne.
La forme est essentielle, tout comme le fond d'ailleurs. Le mot d'ordre de cet échange doit être le pragmatisme. La posture défensive est à laisser au vestiaire.
Faut y aller factuel.
C'est le moment idéal pour informer l'équipe éducative de changements récents à la maison. Un deuil familial, des troubles du sommeil récents, un parent en déplacement professionnel prolongé.
Ces détails qui n'en sont pas.
Exactement. Ces éléments de contexte sont des pépites d'information pour les professionnels de l'enfance. Cela leur donne une grille de lecture totalement différente du comportement de l'élève. Et l'adulte peut aussi être force de proposition.
En suggérant des choses à l'enseignant.
Oui, en suggérant par exemple à l'enseignant ou à l'éducateur de rappeler discrètement à l'enfant de passer aux toilettes juste avant la grande récréation.
Cette transmission factuelle de l'information tisse un vrai filet de sécurité autour de l'enfant. S'il perçoit que la maison et l'école communiquent sereinement, sans dramatiser, la pression globale diminue.
C'est l'objectif.
Mais restons réalistes. Toute la bienveillance et la communication du monde n'effacent pas la réalité d'un agenda d'adulte surchargé. Un appel de la crèche à 10h du matin, ça reste un défi opérationnel majeur qui fait grimper la charge mentale en flèche.
La fameuse charge mentale.
Et le blog WeFam, fidèle à son positionnement très pratique, fourmille de conseils pour anticiper ce casse-tête. Le but, c'est de s'assurer d'avoir toujours un plan B sous la main.
L'anticipation, c'est le rempart numéro un contre le stress de l'urgence. Le document conseille de définir clairement, et surtout à l'avance, qui assume le rôle de personne d'astreinte selon les jours de la semaine.
Oh, ça c'est malin.
Ça évite les interminables négociations chuchotées au téléphone depuis un open space pour savoir qui a la réunion la moins importante à annuler ce matin-là.
C'est du vécu pour beaucoup. L'article aborde aussi l'importance de la délégation non-oreille.
Oui. Savoir s'appuyer sur un réseau de confiance locale, des grands-parents disponibles si on a cette chance, un voisin de confiance, ou même instaurer une solidarité entre parents d'élèves.
Mais la palme absolue de la tranquillité d'esprit, selon notre analyse, revient au fameux kit de survie.
Ah, le kit de survie.
C'est une mesure préventive d'une simplicité enfantine. Laisser en permanence un sac discret dans le casier de l'école ou de la crèche. Un sac contenant un pantalon, des sous-vêtements et des chaussettes de rechange.
Un geste minime.
Et pourtant, mathématiquement, ce geste élimine la grande majorité des appels d'urgence exigeant un déplacement physique et immédiat de l'adulte.
C'est redoutable d'efficacité. La gestion de la logistique peut sembler triviale face aux enjeux psychologiques abordés plus tôt, c'est vrai. Mais les deux sont intimement liés. L'article met d'ailleurs en lumière la façon dont les outils numériques modernes peuvent soulager cette fameuse charge mentale.
L'application WeFam, notamment.
Voilà, la mention de l'application WeFam illustre parfaitement cette démarche. L'outil est présenté comme une plateforme de centralisation des informations vitales de la famille. On y trouve des agendas partagés pour visualiser immédiatement qui est d'astreinte.
Pratique.
Un répertoire des contacts utiles et une fonctionnalité super intéressante, une fiche d'urgence partagée numériquement.
Et le document pointe également vers des ressources additionnelles, des documents téléchargeables mentionnés dans le texte, tels qu'un kit urgence famille ou encore un guide garde partagée.
Oui, le kit urgence famille, je crois que l'article précise d'ailleurs que c'est un bon outil de préparation.
Exactement. Et peu importe l'outil spécifique que l'on choisit, la philosophie générale défendue par le texte est limpide. Si l'organisation matérielle est verrouillée et partagée de manière fiable, le cerveau de l'adulte est libéré du stress opérationnel.
Il est déchargé.
Et un adulte apaisé logistiquement, c'est un adulte beaucoup plus disponible pour gérer l'accompagnement émotionnel de l'enfant.
Tout se tient ? Alors jusqu'à présent, notre analyse s'est concentrée sur des épisodes physiologiques qui relèvent du développement tout à fait normal. Mais le document prend soin de délimiter le champ de la normalité.
La ligne rouge.
Il y a une ligne rouge, en effet. Des moments où l'approche purement logistique et l'empathie éducative atteignent leurs limites et où le regard d'un professionnel de santé devient strictement nécessaire.
C'est important d'en parler. D'ailleurs, avant d'aborder ces signaux d'alarme médicaux, l'article passe par une section de foire aux questions. Et ça s'attaque à un concept souvent redouté par tout le monde, la fameuse régression.
Un grand mot qui fait peur.
Quand un petit garçon ou une petite fille, propre depuis des mois de manière irréprochable, se remet soudainement à mouiller ses vêtements. Le mot régression est lâché, souvent avec une lourde charge d'angoisse pour l'entourage. Le texte de WeFam s'emploie vraiment à démystifier ce terme.
Le terme de régression est effectivement inadapté dans la plupart des cas, voire complètement trompeur.
Pourquoi ?
Parce qu'il sous-entend un retour en arrière délibéré, une perte dramatique d'une compétence chèrement acquise. L'approche scientifique relayée par la source corrige cette perception. Il ne s'agit pas du tout d'un effacement des acquis.
C'est quoi alors ?
C'est une réaction physiologique d'adaptation face à un stress ou à une surcharge cognitive. L'enfant concentre simplement son énergie nerveuse ailleurs pendant une période donnée.
Ça te déculpabilise de le voir comme ça ?
Totalement.
Néanmoins, il faut rester vigilant. La bienveillance n'exclut pas du tout la prudence médicale. Quand est-ce qu'il faut arrêter de chercher des causes psychologiques pour se tourner vers un avis clinique?
L'article détaille avec beaucoup de précision les indicateurs cliniques justifiant une consultation chez un médecin généraliste, un pédiatre ou un neurologue pédiatrique.
Quels sont ces signaux?
Le premier signal est lié à la temporalité. Des accidents qui deviennent subitement très fréquents, particulièrement s'ils interviennent après une très longue période de propreté diurne, parfaitement maîtrisée.
La rupture de rythme, donc.
Ensuite, il y a les signaux d'alerte physique directs. Tout ce qui s'apparente à une douleur ou une brûlure lors de la miction, l'apparition d'une soif perçue comme anormalement excessive ou une odeur d'urine singulièrement forte.
D'accord.
Ces symptômes orientent très clairement vers la piste de l'infection urinaire ou d'une anomalie fonctionnelle qu'il est impératif d'écarter médicalement.
C'est très clair. Et le texte évoque aussi des signaux comportementaux qui peuvent accompagner ces incidents physiques, non?
En effet. L'apparition soudaine de changements de comportement inexpliqués et persistants nécessite un avis extérieur. Si l'enfant développe une tristesse inhabituelle, des épisodes d'agressivité soudains ou des troubles majeurs de l'endormissement ou du sommeil, tout cela en parallèle de ses difficultés de continence, l'investigation médicale et psychologique s'impose.
Et il y a aussi une question d'âge.
Enfin, le critère chronologique est mis en avant, oui. Si la problématique s'installe dans la durée, au-delà de l'âge de 5 ou 6 ans, et qu'elle devient une source de souffrance manifeste pour l'enfant et de tension extrême pour l'entourage, là, l'intervention d'un tiers professionnel de santé est vivement recommandée.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? La leçon à retenir de cette section clinique, c'est que la démarche de consultation ne doit jamais être vécue comme un constat d'échec éducatif.
Surtout pas.
Le document insiste sur un point fondamental. Il n'y a strictement aucune honte à solliciter un regard médical ou un soutien psychologique. Engager une démarche de soins, c'est au contraire témoigner d'un niveau d'engagement et de responsabilité remarquable envers la santé globale de l'enfant.
C'est l'essence même du rôle de l'adulte.
Eh bien, nous touchons à la fin de cette exploration d'une richesse surprenante. En synthétisant l'essence de cet article, on réalise à quel point ces fameux accidents de l'école, bien au-delà du désagrément matériel, sont de véritables rites de passage.
Tant pour les jeunes esprits en apprentissage que pour les adultes qui les accompagnent finalement.
C'est vrai. La grande leçon à retenir, c'est que le remède le plus puissant contre la honte écrasante de l'enfant réside dans le calme inébranlable et l'ancrage émotionnel de l'adulte. C'est l'empathie sincère, cette capacité à descendre à la hauteur de l'enfant, associée à une logistique anticipée et structurée, qui permet de métamorphoser un drame potentiel en un petit souvenir de croissance inoffensif.
Cela soulève une question importante d'ailleurs, une réflexion qui émerge en filigrane de toutes ces recommandations pratiques et psychologiques.
Je vous écoute.
Tout au long de l'article, l'accent est mis sur l'atténuation du stress logistique de l'adulte pour préserver l'enfant du poids de la honte. Mais cette dynamique invite à inverser le regard.
C'est-à-dire ?
Il est pertinent de se demander dans quelle mesure la réaction de panique ou d'exaspération disproportionnée d'un adulte face à un petit incident naturel n'est au fond que le miroir de sa propre vulnérabilité face à la perte de contrôle.
Ah, c'est profond ça.
Ce rythme cardiaque qui s'accélère à l'affichage du numéro de l'école, n'est-ce pas la manifestation d'une angoisse profonde liée au jugement de la société ? L'obsession du mythe du parent toujours organisé, performant, dont le planning ne tolère aucune faille.
La pression de la perfection.
Exactement. Si le monde adulte, avec toute sa maturité supposée, ne parvient pas à accepter avec indulgence une simple erreur de parcours sur son agenda, comment un enfant en pleine construction émotionnelle peut-il espérer intégrer et accepter avec sérénité ses propres fragilités physiologiques ? C'est une véritable invitation à méditer sur le niveau de tolérance et d'indulgence que la société actuelle s'accorde à elle-même, avant même de l'exiger de ses enfants.
C'est une ouverture philosophique puissante pour refermer cette plongée au cœur de nos sources. Un immense merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées d'avoir partagé ce moment d'analyse approfondie avec nous. Gardons notre calme face aux imprévus du quotidien, organisons nos plans B avec soin et surtout n'oublions jamais de nous accorder un peu d'indulgence bien méritée. À très bientôt pour une nouvelle exploration.